Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Prions. Seigneur, encore une fois ce matin, merci pour ta parole. Merci aussi parce que, Seigneur, nous sommes dans un chapitre, Seigneur, où tu es revenu de la mort à la vie, tu as vaincu la mort, Seigneur, et tu, à travers ton évangile, tu confirmes, Seigneur, que c'est l'immortalité qui nous attend, c'est la vie éternelle, une qualité de vie que nous ne pouvons même pas imaginer dans ta présence pour l'éternité. Nous voulons, Seigneur, ce matin, plonger nos regards dans ta parole, mais nous voulons aussi, Seigneur, que tu plonges tes regards dans nos cœurs et que nous puissions, nous aussi, Seigneur, être en mesure d'entendre cette question que tu as posée à cœur, que nous puissions l'entendre pour chacun de nous ce matin, m'aimes-tu? Père, nous te louons, nous te bénissons pour l'œuvre que tu accomplis dans chacune de nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, que répondriez-vous si quelqu'un vous demandait, après avoir partagé un déjeuner avec des amis, m'aimes-tu? Vous sentiriez-vous libre de répondre? Non. Croyez-vous que vous auriez le choix de répondre? Et qui serait encore plus difficile, est-ce qui serait encore plus difficile? Comment répondriez-vous à la question, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Surtout lorsque ceux-ci, dont il est question, se trouvent juste à côté de vous, attendant fermement ce que vous allez répondre, au verset 15. Serions-nous capables de faire ce que Jésus a dit, c'est-à-dire de poser trois fois la même question, m'aimes-tu, à quelqu'un que nous venons d'inviter à manger et que nous considérons comme étant un ami? Moi, ce que je trouve de formidable dans ça, c'est que c'est le Seigneur, ils sont là, sur les rives du lac de Tibériade, et là, ils voient une ombre, ils ont de la difficulté à déceler c'est qui, il y a du poisson, du pain qui sont mis sur le feu, et là, ils s'approchent, et là, on reconnaît que c'est le Seigneur. Je sais pas, mais moi, avant d'inviter des gens chez moi, avant de leur demander, je leur demanderai pas, après le repas, si même, j'inviterai d'abord, je serais porté à inviter des gens que j'aime, d'abord, je suis sûr que j'aime, qui m'aiment, en fait, pour les inviter. Mais Jésus, ici, c'est extraordinaire, il leur sert le repas, on mange ensemble, et là, il demande à Pierre, m'aimes-tu? Et moi, je sais que pour les anciens, les vieux chrétiens, c'est un passage que vous avez sûrement entendu prêcher à plusieurs reprises. J'aimerais regarder un aspect ce matin, un aspect de ce passage. D'un autre côté, Frères et sœurs, n'avons-nous pas tendance parfois à croire trop rapidement que deux personnes s'aiment, en pensant par exemple qu'une fois que l'amour est là, il ne changera jamais ou il ne disparaîtra jamais? Ne nous arrive-t-il pas de prendre pour acquis l'amour, alors que nous ne réalisons pas qu'il n'existe plus depuis longtemps, suite aux disputes épuisantes qui se passent dans nos vies à tous les jours? M'aimes-tu? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, m'aimes-tu encore? Après tout ce que nous avons vécu ensemble, m'aimes-tu encore? Après toutes les expériences douloureuses et décevantes que nous avons vécues, m'aimes-tu? Même si un jour tu m'as laissé tomber, même si tes paroles m'ont fait tellement de peine, est-ce que je peux être certain de ton amour ou est-ce que je devrais te demander plus souvent, m'aimes-tu? Ça arrive que dans des couples mariés, il y a des maris, il y a des femmes qui demandent à leur conjoint, m'aimes-tu encore? Ça arrive, ça. Ça arrive. M'aimes-tu encore? Et si on pouvait étirer le texte biblique ce matin, peut-être que le Seigneur dirait, écoute, un jour tu m'as aimé, mais m'aimes-tu autant que tu m'as aimé le premier jour que tu m'as rencontré? Pour les plus vieux, peut-être qu'ils sont tombés dans une certaine routine spirituelle, peut-être qu'on pourrait entendre Jésus dire aujourd'hui, m'aimes-tu encore? Et on va voir comment, à travers les Écritures, comment on peut, de façon pratique, démontrer au Seigneur Jésus jusqu'à quel point on l'aime. C'est pourtant la question que Jésus a posée à Pierre très tôt ce matin-là, m'aimes-tu? La question, elle était saisissante. Le petit groupe était assis autour d'un feu sur les bords du lac de Tibériade. Il va détourner rapidement les regards vers celui qui parlait. Il était tranquillement assis, ne regardant qu'un d'eux en attendant sa réponse. Et pendant toute la nuit, ils avaient travaillé sans rien prendre. Dans verset 4 et verset 7, hein, si vous lisez l'Évangile de Jean, j'ai pas lu le 4 et le 7, mais le 4 et le 7, il est écrit que le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, jusqu'à ce que le disciple que Jésus aimait dise à Pierre, « C'est le Seigneur ». Et dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, eh bien, il est écrit que le pauvre Pierre, plein de remords, dont le cœur soupirait avec une dévotion presque surhumaine, va s'habiller, sauter dans l'eau, et avec de grandes et fortes brassées, va atteindre bientôt la rive. Les autres disciples le suivaient, hein, il est écrit que les autres disciples le suivaient en tirant le poisson, le filet rempli de poissons à déborder. Et là, comme je viens de vous dire, au verset 12, un feu de charbon brûlait, des poissons et du pain cuisaient. Pas un mot n'est prononcé jusqu'à ce que le maître lui-même les invite en disant, verset 12, « Venez manger. » Venez manger. Nourriture physique. Mais aujourd'hui, Dieu dit à son Église, à travers Jésus-Christ, « Venez manger. » Une nourriture spirituelle aussi que j'ai préparée pour vous. Une nourriture qui va vous nourrir. Une nourriture qui va vous fortifier. Une nourriture qui va faire grandir ou qui va ramener l'amour que vous aviez pour moi au tout début. Une nourriture qui va vous permettre non seulement d'avoir de l'amour pour moi, mais aussi d'avoir de l'amour pour les uns pour les autres, d'avoir de l'amour pour votre prochain. Et là, vous allez obéir aux deux commandements que je vous ai laissés. Amen. Ouais. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit la parole. Finalement, après qu'ils eurent mangé, Jésus rompt encore une fois le silence en disant, « Simon-Pierre, m'aimes-tu? » Et c'est à Pierre qu'il s'adresse au grand Pierre maladroit, le disciple qu'il avait renié récemment, celui qui était sorti, qui avait pleuré amèrement. Il allait le mettre à l'épreuve. Pierre aurait à subir un triple aveu d'attachement pour ses trois reniements. Il allait le juger par la plus haute norme possible, le test suprême, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jacques, enfant de Dieu, m'aimes-tu ce matin? Édouard, enfant de Dieu, m'aimes-tu ce matin? Salvateur, les deux ce matin, vous êtes mes enfants, m'aimez-vous ce matin? Je vais prendre des femmes maintenant. Madeleine, toi qui es mon enfant ce matin, m'aimes-tu ce matin? C'est la question que Jésus pose à tous ses enfants. Tous ses enfants. Mais il prend Pierre en particulier parce qu'il y a quelque chose à régler avec Pierre. Et ce n'est pas des comptes qu'il a réglés avec Pierre. Même s'il a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Il y a une partie qu'on n'a pas dans ce message, dans ce passage-là. Pierre a renié Seigneur Jésus. Vous imaginez dans quel état d'esprit devait être? Il a entendu cette parole de Jésus qui dit, celui qui me reniera devant Dieu, je le renierai aussi devant mon Père. Vous imaginez dans quelle déprime il devait être, Pierre, après ces trois reniements? C'est fini pour moi. Mais non, c'est jamais fini avec Jésus. Parce que celui qui se repent de ses péchés, même s'il leur renie, celui qui leur repent de ses péchés, eh bien, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Amen. Ouais. C'est celui qui meurt dans le reniement, qui vit dans le reniement. Celui-là, il doit s'attendre à subir la colère de Dieu. Mais tant aussi longtemps qu'il y a de la vie, tant aussi longtemps qu'il y a une capacité, on a une possibilité de se repentir, même si on a renié le Seigneur Jésus, si on vient avec un cœur repentant, on confesse notre péché, Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner tout péché. Si on s'examine soi-même ce matin, peu importe le nombre d'années qu'on est dans le Seigneur, il est peut-être déjà arrivé dans nos vies qu'on l'a renié. Peut-être pas publiquement, mais dans le secret de notre cœur, alors qu'on avait l'occasion de pouvoir rendre témoignage à Jésus-Christ, simplement le fait qu'on s'est tu, eh bien, c'est une forme de reniement. Et pourtant, Dieu ne nous rejette pas. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos peurs, Dieu connaît nos craintes. Et c'est pour ça qu'il est présent dans nos vies, jour après jour, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous exhorter. Et aussi nous permettre, quand l'occasion se présente, de nous mettre à sa place, ce que lui a subi avant d'aller à la croix, les moqueries, les attentats contre sa vie. Il montrait jusqu'à quel point le cœur d'un homme est tortueux par-dessus tout. Moi, ce que je trouve de terrible dans la parole, quand j'ai les évangiles, c'est que Jésus accomplit un miracle, et après un miracle qu'il accomplit, donner la vue à un aveugle, permettre à un muet de parler, après avoir chassé des démons, on lit le passage suivant. Et les scribes et les pharisiens cherchèrent un moyen de le faire mourir, au lieu de se réjouir. Et les scribes et les pharisiens cherchèrent un moyen de savoir comment faire mourir Jésus-Christ. On a parlé dans un chant ce matin, Dieu est, Dieu était, Dieu est, et Dieu ce qu'il fait. Et heureusement que Dieu est patient, on l'a dit dans une prière, heureusement que Dieu est fidèle, heureusement que Dieu est bon. Non seulement pour ce monde, mais aussi pour son Église. Dans les versets 15 à 17, où le Seigneur demande à Pierre, m'aimes-tu? Le verbe grec agapao, qui fait allusion à l'amour divin, est employé les deux premières fois par Jésus. Mais Pierre se souvenant de ses trois reniements et conscient de sa faiblesse, n'ose pas se servir d'un verbe aussi fort qu'agapao. On l'utilise ici souvent, hein, on fait un repas, on dit un agapé. Donc, c'est un repas d'amour. Mais le mot agape, c'est vraiment un mot qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu. Et il est possible qu'on puisse se manifester cet amour-là puisque l'Esprit de Christ habite dans nos cœurs. Mais Pierre, dans sa réponse, il va dire, oui, Seigneur, tu m'aimes. Et Jésus, quand il dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est Pierre, m'aimes-tu agapao? Et Pierre est obligé de répondre, oui, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime philéo, quoi. Ouais. Il n'est pas capable de dire, je t'aime agapao. Je suis pas capable, Seigneur, de t'aimer comme toi tu m'aimes. Je suis pas capable, Seigneur, de t'aimer pour l'instant d'une manière inconditionnelle. Je suis pas capable. Et le mot agapao, ça signifie, Seigneur, tu sais que j'ai de l'estime pour toi. Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Mais je t'aime pas d'un amour inconditionnel, Seigneur. Lorsque le Seigneur, la troisième fois, demande à Pierre, m'aimes-tu? Il emploie, lui, à son tour, philéo. Le texte direct nous dit que là, le Seigneur Jésus n'utilisera pas le mot agapao, mais va utiliser le mot philéo. Pierre, est-ce que tu as vraiment de l'estime pour moi? Pierre, est-ce que tu as vraiment de l'affection pour moi? Parce que je sais que dans l'état dans lequel tu te trouves, à moins de naître de nouveau, tu n'es pas capable de manifester cet amour de Dieu envers ton prochain. Tu n'es pas capable de manifester cet amour de Dieu envers ton Créateur, envers ton Sauveur. Agapao. Pierre, dont le cœur éclate presque de douleur à la pensée que son Seigneur pourrait douter de lui, répond avec un cœur qui bat et une voix tremblante, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que j'ai de l'estime pour toi. » Et à chaque réponse, Jésus dira à Pierre, « Je te paie mes brebis et suis-moi. » Et nous avons appelé cette question le test suprême. Mais était-ce après tout la plus grande épreuve d'attachement et de loyauté, l'aveu le plus engageant que des lèvres humaines pouvaient exprimer? Y en avait-il pas un plus grand? Jésus avait-il fait une erreur? La vie de Pierre ne semblait pas indiquer une telle erreur. Jésus, en tout cas, ne semblait pas le penser. En réalité, Jésus, il était prêt à tout baser sur cette seule question. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il posait la question la plus importante dans toutes les langues. Et aujourd'hui, après plus de 20 siècles, nous pouvons toujours considérer cette question comme le test suprême de notre vie spirituelle. Jour après jour, frères et sœurs, à travers les siècles, Jésus-Christ a lié des hommes et des femmes à lui-même, pas par la force, pas par la peur, mais par l'amour. Satan était bien d'accord qu'il possède tous les royaumes du monde, à condition qu'il reconnaisse son allégeance envers lui, mais Jésus savait qu'il n'était pas de la volonté du Père de forcer les hommes à lui obéir. Et ça, c'est l'amour. Quand on aime, quand on décide de se marier avec quelqu'un, c'est pas avec l'arrière-pensée qu'on va le changer à devenir comme nous, mais c'est de l'accepter tel qu'il est. On accepte sa personnalité. Caractère, on peut le changer. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Hein? On vit au monde avec le premier caractère d'Adam, et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de nous amener à avoir le caractère du dernier Adam. Et il faut faire attention de ne jamais dire à quelqu'un, « Hey, lui, il a un sacré caractère », parce que c'est presque sous-entendre qu'il n'est pas sauvé, quoi. Dire qu'un sacré caractère, c'est que le caractère du premier Adam. Alors qu'en Jésus-Christ, on est censé l'avoir. Il est mort, ce caractère-là. Il est enterré, quoi. On peut dire, au pire aller, on peut dire qu'il a une forte personnalité. Mais on ne doit pas utiliser le mot caractère parce que la personnalité, Dieu ne veut pas la changer, votre personnalité, sinon on devient tous des robots, quoi. Dieu veut que Jean Cudon reste ce qu'il est, Jean Cudon avec sa personnalité. Il veut que vous restiez chacun avec votre personnalité. C'est le caractère qui veut changer. Parce que le caractère du premier Adam, il vit pour lui-même. C'est un caractère qui est égoïste. Il n'en a rien à cirer de l'autre. Il va essayer de séduire l'autre pour arriver à ses fins. Il va se servir de l'autre. Ça, c'est le caractère du premier Adam. Il est égoïste. Il est impatient. Il magouille pour arriver à ses fins. Mais le caractère du dernier Adam, c'est tout le contraire. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Dieu lui donne maintenant un cœur pour servir les autres. Dieu lui donne maintenant un cœur pour aimer les autres de façon inconditionnelle. C'est plus « si tu me donnes ça, tu vas avoir ça ». Tu vas avoir un bon repas ce soir? Eh bien, écoute, il faut que tu fasses ci, ça, ça, ça. Ça, c'est le caractère du premier Adam. L'amour agapé, c'est l'amour qui découle du dernier Adam, qui est mort pour chacun de nous. L'amour de Dieu qui efface le péché du monde. Même si tu ne mérites pas, même si tu ne mérites pas, même si tu étais méchant avec moi, je vais quand même te servir ton repas ce soir, je vais quand même te le préparer. Même si tu ne mérites pas, même si tu étais méchante avec moi aujourd'hui, les travaux que je dois faire, je vais les faire. Et je vais vous dire pourquoi on doit le faire. Uniquement pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. La création, elle a été faite pour Christ et par Christ. Pas pour vous, pas pour moi. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Tout. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça doit servir à glorifier Dieu. Sinon, on marche dans la chair. Tout doit être fait pour glorifier le Seigneur. Et à ce moment-là, je n'attendrai pas que l'autre fasse des actions pour moi pour pouvoir faire des choses pour lui. Tu ne mérites pas, mais je vais le faire pour glorifier le Seigneur. Tu te moques de moi, ça c'est ton problème, tu rendras des comptes au Seigneur. Mais moi je vais le faire parce que je suis un enfant de Dieu. Et moi je sais qu'à travers ce que je vais faire, je vais glorifier le Seigneur. Et vous vous imaginez si Jésus, avant de monter sur la croix dans le jardin de Gethsémani, s'était mis à prier, dire Seigneur, s'il avait réfléchi comme le premier Adam, Dieu, mon Père, je ne monte pas sur la croix tant et aussi longtemps que ces gens-là ne changent pas dans leur cœur. On serait tous perdus dans nos péchés, hein? Père, je ne monte pas sur la croix parce qu'il n'y a personne qui mérite que j'y aille. Qu'il y ait au moins 10 personnes qui me disent, écoute, on t'aime Jésus et je vais aller sur la croix. Qu'il y ait 10 personnes qui fassent des choses pour moi et puis là, je vais accepter d'aller sur la croix. Heureusement que Jésus n'a pas réfléchi comme ça. Et ça, c'est le caractère du premier Adam. Ça, c'est la façon de raisonner du premier Adam. Hey, c'est pas sur la croix que Jésus a vaincu le malin. Sur la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. C'est dans le jardin de Gethsémani qu'il a vaincu le malin. À travers la prière qui nous est laissée, une des deux prières qui nous est laissée dans les évangiles, deux prières que Jésus a priées. C'est dans le jardin de Gethsémani qu'était son combat. Ils ont tous pour père le diable. Et même s'ils ont tous pour père le diable, et que je suis seul contre ce monde, qui ne mérite rien de ta grâce, Seigneur, je vais quand même me rendre à la croix. J'attendrai pas que les gens méritent que je meure pour eux. Je vais aller sur la croix, prendre ce que je mérite pas, pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Les hommes auraient à le choisir selon leur bon vouloir et nous allaient être gagnés par l'amour. Et une telle union serait beaucoup plus étroite, plus forte, plus durable qu'une obéissance forcée. L'amour l'avait amené, avait amené Jésus sur la terre, l'amour l'avait poussé à mourir pour une race perdue, et l'amour allait attirer des hommes et des femmes à lui. Il ne demande pas un mot concernant l'une des 100 questions. Il parle pas. Avez-vous remarqué une chose? Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me bénit, c'est que souvent, les hommes, on a le don de compliquer les choses. Et il ne demande pas à la personne, est-ce que tu crois au credo? Est-ce que tu crois à la confession de foi de l'Église? Est-ce que tu préfères les baptistes? Est-ce que tu crois au don spirituel? Est-ce que tu crois à ci? La seule question qu'il pose, c'est, tu m'aimes, m'aimes-tu? M'aimes-tu? C'est la seule condition pour devenir un disciple de Jésus-Christ. M'aimes-tu? Il n'y a pas de credo, il n'y a pas de formule d'Église à accepter. Pourquoi? Parce que même tu inclus et englobe tout. Ça englobe tout ça, quoi. Les autres choses trouveront par elles-mêmes leur propre place parce que la question « m'aimes-tu » suffira pour tout le reste. « M'aimes-tu » conduira vers tout ce qui est nécessaire. Des milliers de gens aujourd'hui sont membres actifs de l'Église, sont d'excellents ouvriers, mais n'ont pas d'amour personnel pour Jésus-Christ. Être fidèle aux grandes doctrines fondamentales de la foi ne prouve pas que vous êtes fidèle dans votre cœur à Jésus. Les multitudes qui sont en ordre dans leur tête ne le sont pas dans leur cœur. Et les formes et les cérémonies ne suffiront jamais. John Wesley est parti aux États-Unis pour convertir les Indiens. Et en revenant sur le bateau, voilà sa prière. « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens. Qui me convertira? » Il n'était même pas converti, il essayait d'aller convertir les autres. Et c'est un frère morave sur le bateau qui voit sa peur de mourir, quoi, parce qu'il savait pas où il allait. Qui lui a dit « Continue à prêcher la foi et tu vas la trouver, John. » Et c'est ce qu'il a fait. Mais il est parti en Amérique et il était convaincu qu'il était en règle avec Dieu. Mais il a suffi qu'un bateau risque de chavirer, risque de couler en pleine mer lors d'une tempête pour réaliser qu'il n'était pas prêt à rencontrer son Dieu. Et s'il y avait quelqu'un de religieux, je peux vous dire que c'est John Wesley. Il jeûnait le lundi, il jeûnait le mercredi, il jeûnait le vendredi. Il faisait des prières à plus finir, quoi. Mais John Wesley n'était pas sauvé. C'était un membre d'Église, il n'était pas sauvé. Il était dans une faculté de théologie, il n'était pas sauvé. Qui me convertira? Je vais convertir les Indiens. Qui me convertira? Frères et sœurs, à choisir, n'est-il pas préférable d'être en ordre dans mon cœur et dans l'erreur dans ma tête qu'être dans l'erreur dans mon cœur? C'est à cause de cela qu'il y a tant de controverses et de ressentiments aujourd'hui. Dieu nous a donné une faucille, non pour l'employer contre nos frères, mais pour ramasser des gerbes. Il est même possible d'être un martyr pour la foi et pourtant ne pas aimer Jésus-Christ. Il est même possible d'être un martyr pour la foi et de ne pas aimer Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. C'est ce que Paul dit, c'est pas moi qui l'invente. Paul, c'est, et je pense que c'est ce que Paul veut dire ici, « Et même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, dit-il, même si je livrerais mon corps pour être brûlé, dit-il, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » C'est particulier, ça. Il y a combien de gens religieux, écoutez, qu'avant de mourir, ils vont marquer sur leur testament qu'ils lèguent tout à une certaine église, qu'ils lèguent tout à une certaine religion. Mais ça le fera pas avancer, ça leur ouvrira jamais la porte des cieux, quoi. Jamais. Jamais. Il y en a qui s'immolent dans certains pays, qui s'arrosent d'essence, qui se brûlent, pensant qu'ils vont entrer au ciel. C'est malheureux qu'ils n'aient pas lu l'Évangile, et surtout le 1 Corinthiens chapitre 13. Quand Paul dit, tu peux tout donner ce que tu as. Pensez que tu es très charitable. Tu peux aller servir de la soupe aux pauvres à le centre-ville de Liège, à Saint-Lambert. Tu peux tout donner ce que tu as. Tu peux même te sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien et tu n'es rien. C'est ce qu'il dit. D'où la question de Jésus ce matin à ses frères, à ses sœurs, à son Église, m'aimes-tu? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à aimer Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Quelle est notre réponse à cette question? Quelle est l'intensité de notre amour pour Dieu, pour Jésus ce matin? Jésus répond à la réponse d'amour de Pierre en lui donnant une tâche à accomplir, une responsabilité. Aime mes brebis, c'est-à-dire aime mon peuple et prends soin de lui. Mes frères et sœurs, ça ne s'adresse pas aux bergers. Ça s'adresse à chacun qui se dit enfant de Dieu né de nouveau. Aime mon peuple, ça veut dire occupe-toi de tes frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Viens leur en aide à tes frères et à tes sœurs. C'est pas un mandat que j'ai donné juste au pasteur, c'est pas un mandat que j'ai donné juste aux membres du conseil, ni aux responsables des ministères. Aime ceux qui font partie de mon peuple. Prends soin de lui. Aime ceux aussi de l'extérieur, parce que ce sont des gens aussi que je veux rajouter dans notre Église. Il ne nous est plus nécessaire de poser les vieilles questions concernant notre attitude à l'égard des choses du monde. Est-ce mal de faire ceci ou est-ce péché de faire cela? Nous appliquons simplement la test suprême à toutes nos actions et cela devient la puissance qui nous pousse à aimer les autres comme Christ nous a aimés. Ce n'est pas une question de savoir s'il est bon ou mauvais de se permettre des amusements douteux, parce qu'un homme arrive à être si rempli de l'Esprit de Dieu, si pénétré de l'amour de Christ, et si désireux de servir et de plaire à celui qui lui a gagné l'affection de son cœur, qu'il n'y a pas de place pour le péché, pas de place pour le monde, et il n'y aura absolument aucun désir pour les choses dans lesquelles celui qui n'est pas sauvé trouve son plaisir. Pensez-vous qu'un homme ferait du mal à quelqu'un qu'il dit aimer vraiment? Je pense pas. D'où il ressort que la grande question, le test suprême, c'est l'amour. Frères et sœurs, dites-moi ce matin, aimez-vous? Si c'est le cas, ben vous désirez lui plaire. Si c'est le cas, vous désirez le suivre. Si c'est le cas, vous serez pleinement satisfait par lui et par lui seul. Le monde n'attirera plus. Ses charmes cesseront d'exister pour ce qui nous concerne. Et vous ne désirerez plus participer à ses plaisirs trompeurs. Jésus et lui-même et Jésus seul vous suffiront. Vous vous nourrirez de lui, vous vous tiendrez auprès de lui, vous demeurerez en lui, vous l'aimerez et vous le couronnerez, roi de votre cœur. Toutes vos questions trouveront facilement leur réponse si vous l'aimez vraiment. Amen. Il y a une différence entre devoir faire des choses pour Christ et servir Christ. Et ce que le Seigneur veut, c'est pas qu'on doive faire des choses pour lui. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on le serve. Et ça, c'est le stimulant de l'amour. Le disciple de Jésus-Christ suit son maître parce qu'il l'aime et non à cause d'une obligation dont il se tient à sa décharge. Qu'est-ce qui a poussé David Brenner dans les tribus indiennes en Amérique? Qu'est-ce qui l'a fait quitter son foyer à l'âge de 24 ans et demeurer seul au cœur des forêts vierges, où aucun blanc n'avait encore posé le pied? Qu'est-ce qui l'a rendu capable, quoique se mourant de consomption faible et sans force, par manque de nourriture et à cause de longs voyages à cheval, par nuit froide, sans aucun confort, à se retrouver dans les bois, sous une pluie battante, à continuer mois après mois à dire à ces Indiens que Dieu les aimait, au point d'avoir donné son fils unique, afin qu'il mourût pour eux. Qu'est-ce qui le poussait tant? Je vous le demande, est-ce que c'était le devoir? Aucun homme ne penserait que ce fût son devoir d'en faire autant. Non, c'était l'amour. David Brenner aimait son Seigneur et désirait le montrer. Et je loue le Seigneur que David Brenner soit pas né au 21e siècle, qu'il soit né au 18e, parce que dans sa condition de santé dans laquelle il se trouvait, il aurait eu toute l'Église sur le dos pour le traiter d'imbécile, d'idiot, d'inconscient, d'aller évangéliser dans l'état actuel qu'il était. Frères et sœurs, vous avez des enfants? Je ne sais pas s'ils sont au Seigneur. Est-ce que vous leur avez inculqué un désir de plus réussir dans la vie que de s'investir plus dans un ministère pour le Seigneur? Ça parle beaucoup, ça. Et je vais vous dire pourquoi. Si on pousse nos enfants à obtenir des diplômes à réussir dans la vie, on leur montre indirectement que ça, ce n'est pas la priorité dans nos vies. Moi, si on leur dit, écoute, va te chercher un diplôme, et avec ce diplôme-là, tu dois t'en servir pour glorifier le Seigneur, là où Dieu va t'appeler. Ça, c'est différent. Et qui sait, peut-être que Dieu t'appellera à t'investir pleinement dans un ministère. Mes frères et sœurs, ça parle beaucoup à nos enfants, ça. Oui, vas-y, vas-y dans les études, vas-y, va te chercher un diplôme à l'université. Oui, vas-y, vas-y, ça, c'est plus payant. Range-toi dans cette direction-là. Ça, tu vas faire de l'argent. Ça, tu vas pouvoir t'acheter une maison. Ça, tu vas pouvoir t'investir dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Le monde. Ouais. Et on est surpris après que nos enfants n'ont pas accepté le Seigneur. Hey! Je vous raconterai pas toutes les confidences que les jeunes me font, hein. Ouais. Papa et maman, dans le monde de la semaine, chrétien dimanche. Ouais. Papa et maman. Pourquoi tu n'acceptes pas le Seigneur? Je n'ai pas le témoignage à la maison. Ce que mes parents viennent raconter le dimanche, ils ne le vivent pas durant la semaine. Moi, je vous parle à cœur ouvert ce matin. Hein? On sait que Jésus serait capable d'attirer les gens à lui s'il avait vécu le contraire de ce qu'il enseignait. Jamais. L'Église n'existera même plus aujourd'hui. Il serait comme Mahomet, il serait comme tous les autres, les Bouddhas, il serait comme tout le monde. Jésus n'a pas tué personne pour les convertir à sa religion. Il est mort pour que les gens se convertissent à lui. C'est extraordinaire, ça. C'est le seul qui a fait ça. C'est le seul qui a fait ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une vie après la mort et que Dieu le ramènerait de la mort à la vie. Comme il va faire pour vous. C'est pas le manque de connaissance de la parole qui empêche nos enfants de venir au Seigneur, c'est le manque de témoignage des parents. Je vais vous dire ce matin, moi. Ça, c'est ce que vos jeunes me révèlent. Mon père, il m'a jamais lu l'Évangile. Il pourrait être braqué sa TV 7 jours par semaine, par contre, il est là. Le soir, 6h à 10h, 6h à minuit, il est là. Ce que vous voulez que je fasse, moi? J'allais reprendre des parents à la maison? C'est pas mon... Je veux dire en bon français, c'est pas mon job, ça. Je peux appeler à ça, moi. Je suis un berger, moi, je suis pas le chien du berger, je suis pas là pour mordre les gens. Le Seigneur a pas besoin de chien dans son église. Il a besoin des bergers, il a besoin des frères et sœurs qui s'occupent les uns des autres. Mais surtout besoin des parents qui non seulement prient pour le salut de leurs enfants, mais qui sont un témoignage à chaque jour dans leur foyer qu'ils ont cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et que les enfants ne seront pas baptisés, ils n'accepteront pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus dans un âge où ils doivent le faire. Sinon, les parents, sinon l'Église, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu n'es pas encore baptisé, tu as 18 ans, qu'est-ce que l'Église va dire? Quoi? C'est grave, ça, hein? C'est grave, parce que c'est joie hypocrite, hein? Parce qu'on sait que notre enfant n'est pas, on sait que notre enfant n'est pas converti, qu'il n'est pas né de nouveau. Et pour les apparences, on lui demande de se faire baptiser, alors qu'on sait qu'il est sur chemin d'enfer, quoi. Ça, c'est grave, ça. Et on donne l'illusion à notre enfant qu'il est sauvé, quoi. Et c'est grave, ça. C'est grave, ça. Pourquoi? Parce que si Jésus venait aujourd'hui et nous posait la question, mon frère, ma soeur, m'aimes-tu? On ne serait pas capable de répondre correctement. Parce qu'on dirait, Seigneur, avant de te dire que je t'aime, il y a ça aussi que j'aime dans ma vie, il y a ça qui passe avant toi. Et ça, ça m'empêche de goûter à ton amour. Ça m'empêche d'aimer Dieu comme je dois l'aimer. Ça m'empêche d'aimer, de t'aimer comme toi tu mérites d'être aimé. Et Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas de nous condamner, c'est pas de nous juger. C'est qu'on se mette à genoux et qu'on crie, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui passe avant toi. Seigneur, que je sois un témoignage dans ma famille comme toi, tu étais un témoignage quand tu étais sur la terre. Parce que je suis un obstacle au salut de mon fils. Je suis un obstacle au salut de ma fille. J'agis comme j'étais le maître de la loi. Oui, je connais ta parole, mais il n'y a pas d'amour dans ma façon de diriger. Mes enfants sont sous un joug. Dans la façon que je leur parle, et pas dans le chemin de la délivrance. Je ne sais pas si vous connaissez le missionnaire Robert Morrison, qui est né en 1782, qui est mort en 1834. Un jour, le jeune homme a écrit cette prière dans son journal. « Jésus, je me suis donné entièrement à ton service. La question qui me préoccupe est, où te servirai-je? J'ai appris dans ta parole que ton saint plaisir est que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Mon désir est, ô Seigneur, de m'engager là où les travailleurs sont les plus en manque. Peut-être qu'un lieu sur le champ est plus difficile qu'un autre, bien que je ne me sente inapte, incapable, je sais que je peux tout faire, toute chose, par ta puissance qui agit en moi. Ô Seigneur, guide-moi. Rends-moi capable de compter le coût, d'évaluer le prix, et après être arrivé à une résolution d'agir avec consistance. » Sa prière fut richement répondue. Morrison fut le premier missionnaire évangélique à mettre les pieds en Chine. Et là, on peut en passer d'autres. Hein? On pense à Hudson Taylor, on pense à William Carey, on pense à tous ces grands héroïques missionnaires du passé. Et mes frères, je pense qu'il en sera de même pour nous si on l'aime vraiment. Et on va le prouver par un joyeux service et heureux. Vous donnerez même votre vie s'il le faut, c'est-à-dire si vous l'aimez, l'aimez-vous vraiment? Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, c'est pas une confession de foi qui attend de ses enfants. Il n'y a rien à cirer de nos confessions de foi. Ce qu'il veut, c'est qu'on Seigneur puisse le servir. C'est une déclaration de service. Tu t'amènes à ça? Frères et sœurs, vous n'êtes pas gênés un matin qu'une responsable de l'école du dimanche vient dans l'avant et vous dit qu'ils ont une heure en plus. On est à 10 personnes, on a un heure en plus 10%. Moi, je suis gêné pour vous, parce que je m'aperçois que c'est pas la quantité immense qui font la spiritualité. C'est le service. C'est l'engagement. Frères et sœurs, si avec les dons que vous avez reçus, vous n'avez pas le temps de servir le Seigneur, c'est que vous êtes trop occupé à faire d'autres choses que vous ne devriez pas faire dans le monde. Et moi, je suis gêné pour vous ce matin. Je vous le dis vraiment du plus profond de mon cœur. Robert Morrison était en Chine, il n'y avait pas une scène. Il n'y avait pas de salaire. Il n'a pas attendu que les gens se lèvent pour aller servir le Seigneur en Chine. Il s'est levé. Si vous attendez qu'un et l'autre se lèvent pour pouvoir aller à l'école du dimanche, si vous attendez qu'un et l'autre se lèvent pour pouvoir servir au groupe de jeunes, vous risquez d'attendre longtemps. Vous êtes peut-être l'étincelle qui va permettre à d'autres, l'étincelle qui va allumer un feu, qui va permettre à d'autres de vouloir s'impliquer. Vous ne vous sentez pas capable, c'est justement ceux-là que Dieu appelle, les incapables. C'est à travers les incapables que Dieu travaille. Les compétents, Dieu n'en veut pas parce que les compétents n'ont pas besoin du Seigneur pour enseigner. Ils n'ont pas besoin du Seigneur pour s'occuper d'un ministère. Ils disent, Seigneur, regarde-moi, tu vois comment je suis compétent. Non, Seigneur, ce qu'il veut, c'est des prières comme Morrison. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend. Tu m'as donné des dons. Je les mets à ton service. Je suis un incapable, je suis un inapte. Mais Seigneur, c'est en toi que je veux me fortifier. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et Seigneur, mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Je sais qu'il est vivant. Et Seigneur, tu appelles à te servir, eh bien, je vais te servir. J'ai pas les moyens d'aller sur le champ missionnaire. J'ai pas les moyens d'aller à tel endroit. Mais Seigneur, j'ai les moyens de te servir dans mon Église. Le service, ça fait aussi partie du test suprême de l'amour. Ça donne quoi de dire à sa femme qu'on l'aime si dans la pratique on ne lui démontre pas? Ça donne quoi de dire à son mari qu'on l'aime si dans la pratique on ne lui démontre pas? Ça donne quoi de dire, ça donnait quoi à Jésus de dire, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent? C'est sur la croix, ils avaient tous maudit dans un excès de colère. Ça y aurait donné quoi de n'avoir prêché? Rien. Ce qu'il a enseigné, il l'a mis en pratique, et sur la croix, il a pu dire à son père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ma prière ce matin, c'est Père, pardonne à ton Église, parce que mes frères et sœurs, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. À ne pas se lever pour te servir là où tu les appelles. Ça, c'est ma prière ce matin. Frères et sœurs, lorsque nous cherchons à mesurer et à connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son grand amour et de sa compassion infinie, c'est à la croix que nous trouvons notre réponse. Vous voulez connaître la longueur? Vous voulez connaître la hauteur? Longueur, hauteur, profondeur de l'amour de Dieu, c'est là. Mais la mesurer, c'est à l'infini. Jésus est dans ses bras, en haut vers en bas. Voici, vous avez la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour ses enfants. Frères et sœurs, l'amour exige l'amour et rien ne satisfera un cœur qui aime accepter l'amour. Et ainsi, parce qu'il aime tellement, il ne peut être satisfait avec rien de moins que l'amour pour ses disciples. Que sont la fortune, les maisons, les voyages, le luxe et tout ce que l'argent peut donner pour celui qui soupire après l'amour? L'amour et l'amour seul est le moyen d'être accepté par Christ. C'est pourquoi même Dieu devient le test suprême pour chaque chrétien. Et je terminerai avec une petite illustration. Dans une des plus grandes villes de France, où l'épouse du commissaire Booth Cliburn de l'armée du salut tenait des réunions d'évangélisation, elle reçut un jour la visite de la femme d'un riche Français. Dans sa main, cette femme, elle tenait une petite bouteille avec la mention « poison ». Elle avait pris sa décision de s'enlever la vie. Elle était une parmi les centaines qui habitaient ce pays, qui vivait sans Dieu, qui avait décidé d'emprunter le chemin du suicide. Cependant, avant de passer à l'acte, elle avait décidé de voir la seule personne dans toute la France en qui elle pouvait avoir confiance et d'avoir les yeux fixés sur elle au moment où elle mourrait. Laissez-moi vous raconter son histoire. Elle dit ceci. Il y a quelques jours, je me suis plainte à mon mari. Surpris et irrité, il répondit, « Mais qu'est-ce que tu veux? Tu as accès à mon portefeuille, tu habites dans la même maison, tu manges à la même table, tout ce que la fortune et la position peuvent te donner est à toi, et pourtant tu te plains. » Elle lui dit, « Je veux ton cœur. Je veux que tu m'aimes. »« Oh! » s'exclama-t-il, « Tu ne peux pas avoir cela, parce que mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir tout le reste. Et mon cœur, mon amour, c'est impossible. » Frères et sœurs, on a été créés pour aimer et être aimé. Et si ces deux besoins-là ne sont pas remplis dans nos vies, on est des désespérés. On pense que juste les drogués qui se suicident, on pense que c'est juste dans le milieu pauvre qu'on se suicide. Chez les riches, on se suicide aussi. Parce qu'ils ont les mêmes besoins que les pauvres, aimer et être aimé. L'argent ne comble rien, ou en fait, l'argent ne comble pas tout. L'année passée, il y a 2 ans, on a visité Monaco. Un frère nous a fait visiter Monaco. Et j'ai vu finalement à quoi les riches pouvaient passer leur temps pour éviter de mourir d'ennui. Ils arrivaient vers 11 heures le matin, bien chiquement vêtus, pas un costard à 69 €, mais peut-être à 700, 1000 euros. Et là, ils arrivaient avec la Lamborghini, la grosse voiture, c'est toujours la plus chère. Hein? Bon. Et là, tu as le monsieur, tu donnes un billet de 100 quoi, pour te faire ouvrir la porte et la faire fermer. Et là, tu rentres au restaurant, je ne sais pas combien te coûte le déjeuner, 11 heures le matin, coûte une fortune. Et vous savez ce qu'il fait la journée, ce gars-là? Il a sa carte bancaire, là, puis il peut dépenser 500 000 euros. À s'exciter, parce que la vie est tellement plate pour lui. Il s'ennuie tellement. À s'exciter, à jouer à la roulette, à jouer au jeu d'argent. Toute la journée, je vais gagner. Et là, il perd, j'ai perdu aujourd'hui, mais moi, j'ai été excité. Ça m'a excité. Et le lendemain, il va se coucher, puis le lendemain, il recommence. Pas sur journée au casino à Monaco. Quelle vie, quoi. Les riches. Les riches. Vous pensez que les riches sont plus heureux que vous? Ils sont plus heureux que les pauvres, que la classe moyenne? Non. Ils ont le même besoin que nous. Aimer et être aimé. Et ça passe par là. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut combler l'amour. L'amour dont nous avons besoin. Jamais. Une femme, un homme nous finira toujours par nous. Par nous décevoir. Mais jamais Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous pouvons offrir à Jésus tout le reste de ce que nous avons et pourtant il ne sera pas satisfait. L'amour exige l'amour et rien de moins ne saurait le contenter. Et maintenant, avec les mêmes paroles et le même cœur qui languit, il vient à vous et à moi, et une fois de plus, nous entendons poser la question qui constitue le test suprême qui demande une réponse, m'aimes-tu? Frères et sœurs, ce matin, en terminant, si Jésus devait apparaître au milieu de nous et nous poser personnellement la question, m'aimes-tu? Que dirions-nous? Comment répondrions-nous ce matin? Jusqu'à quel point sa question m'interpellerait-elle? Pourrions-nous le regarder droit dans les yeux et lui dire, tu sais tout, tu sais que je t'aime, Jésus? Serions-nous capables de lui dire ça ce matin? Et est-ce que Jésus dirait, je sais que tu m'aimes, filio, mais parce que tu es né de nouveau, c'est l'amour agapao que je cherche, que tu dois manifester. L'amour du Père qui a été déposé en toi parce que tu es passé par cette nouvelle naissance, et que l'Esprit qui habite en moi, qui me permettait de manifester l'amour du Père auprès des gens qui ne m'aimaient pas, c'est cet esprit-là que tu as reçu, et c'est en Jésus-Christ, c'est cet amour-là que tu es capable de manifester aux hommes. Et l'amour du Père, ça le manifeste, comme Jésus l'a donné à Pierre, il a donné une responsabilité, il a donné une tâche. Ça manifeste aussi dans la pratique. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est savoir aimer Dieu, c'est ce qui détermine notre manière de vivre en attendant son retour. Et si nous avons l'impression que nous ne savons pas comment aimer Dieu, comment ressentir l'amour que Dieu a pour nous? Cela peut nous aider si nous prenons la décision de paître les brebis de Dieu, de prendre soin des autres, de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous dans l'amour, de manifester notre foi et notre amour à travers nos actions. Nous l'aimons d'être l'argent. Nous l'aimons, dit Pierre, qu'en est-il de vous et moi? Et vous voulez savoir dans la pratique ce que Dieu attend de vous? C'est que vous mettiez en pratique le sermon sur la montagne. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent mettre en pratique le sermon sur la montagne. Le grand écuménisme nous dit de mettre en pratique le sermon sur la montagne, c'est impossible. Si on n'est pas passé par une nouvelle naissance, c'est impossible. Et le servir le Seigneur, lui montrer comment on l'aime, c'est de mettre en pratique le sermon sur la montagne. Peut-on dire qu'on aime Dieu quand on voit notre frère dans le besoin, qui est en train de crever, qui a besoin du strict nécessaire, et qu'on se tourne la tête, parce que ça sent trop mauvais qu'on continue? Peut-on dire qu'on aime Dieu? Peut-on dire qu'on aime Dieu quand on sait qu'il y a des places où les gens manquent de nourriture, et qu'on ferme les oreilles pour ne pas entendre que ça sera à nous de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu, frère et sœur? Jésus, notre modèle, l'a fait, lui. Il l'a fait. C'est pas juste de partir une banque alimentaire. C'est pas juste de ramasser des vêtements. C'est facile de les apporter puis de remettre ça dans les mains de tout le monde. Mais nous, personnellement, vous, personnellement, est-ce que vous êtes capable de manifester dans la pratique de votre vie de tous les jours, de dire, je sais que quelqu'un manque de vêtements, je vais aller lui porter ces vêtements que j'ai en trop. Je vais aller lui porter cette nourriture pour être certain qu'il va manger aujourd'hui. Faites-moi, je vais vous dire une confidence, mais c'est plus même s'il y a l'aide sociale et le chômage en Belgique, il y a des gens qui n'ont pas 3 repas par jour. Il y a des gens qui couchent dans des voitures parce que les loyers sont trop chers. Il y a des gens qui se lavent une fois par mois parce qu'ils n'ont pas l'eau courante chez eux. Frère et soeur, ce matin, tout ce qu'on peut faire, c'est de louer le Seigneur et dire, Seigneur, merci, parce que nous ne manquons de rien. Et qu'il en soit ainsi jusqu'à ton retour, Seigneur. Et donne-nous tes yeux, donne-nous ta bouche, donne-nous tes pieds, pour qu'on puisse entendre ceux qui crient, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice. Donne-nous ta bouche pour qu'on puisse leur parler, leur montrer comment tu nous as aimés, comment nous voulons le manifester. Donne-nous tes pieds pour que nous allions vers les plus démunis. Parce que tu as à cœur la veuve et tu as à cœur l'orphelin. Et dans la parole, on nous dit que le Seigneur a un cœur particulier pour la veuve et l'orphelin, pour ceux qui sont dans le besoin. Hein, la veuve et l'orphelin, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y avait pas de chômage, c'était ceux qui étaient vraiment dans le besoin. Pour ceux qui sont dans le besoin, Dieu a un cœur particulier. Jésus venait chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous étiez du nombre, nous dit la parole. Que nous puissions le louer, le bénir et être en mesure de répondre à cette question. Seigneur, tu sais que je t'aime parce que je suis à ton service. Tu sais que je t'aime, Seigneur, parce que j'obéis à ta parole. Obéir à sa parole, c'est pas juste ne pas pécher, mais c'est aussi faire le bien. C'est ce que Jacques dit. Je terminerai avec ça dans Jacques chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi. Et ça, c'est la grâce. Et c'est pour ça que Dieu est plus sévère sur la grâce que sur la loi. Jacques chapitre 4, verset 17. Ça, c'est un verset qui tape ça assez solide. Hein? Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Hey, Seigneur, non seulement quand je faisais mal, je commettais un péché, mais en plus, si je fais pas de bien que je dois faire, je commets un péché. Hey, on est étranglé, on est cuit, hein? On était cuit, quoi, hein? On est pris de tous les côtés, Seigneur. Je vais vous dire pourquoi le Seigneur est sévère avec ce passage-là. Parce qu'en tout temps, tu es capable de faire le bien parce que tu as mon esprit qui habite en toi. Voilà. Et parce que tu as mon esprit qui est en toi, tu devrais être sensible de pouvoir faire le bien quand le bien se présente devant toi. Et si tu ne le fais pas, tu es sans excuse, tu as commis un péché. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Hein? Et on est menottés de tous les côtés, hein? La loi dit, quand tu commets un péché, ben, t'es condamné. Puis lui, il dit ici, ben, quand tu fais le bien que tu devrais pas faire, c'est la même chose, quoi. On y prie. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Dieu nous donne la force en Jésus-Christ de pouvoir l'accomplir. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'on puisse se rappeler que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et que Christ est notre modèle à imiter, notre exemple à suivre. Et ce matin, eh bien, si on a de la difficulté à répondre à cette question de Jésus, eh bien, que là où on se trouve, que ce soit à la maison ou ici, qu'on peut dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que ça fait des mois, ça fait des années que je vis pour moi-même. Ça fait des mois et des années que je manifeste le caractère du premier Adam. Et ce matin, tu me parlais à travers ton message. Je te demande pardon. Je veux me repentir. Je veux me détourner des voies dans lesquelles je suis. Et je veux me lever, je veux te servir. Pour ta gloire seule. Pas pour mon prestige, pas pour ma renommée, pour ta gloire seule, parce que toi seul en es digne. Amen.